La cigale. Deuxième partie, la sortie du terrier. Vers le solstice d'été paraissent les premières cigales. Sur les sentiers de fréquent passage, calcinés par le soleil, durcis par le piétinement, s'ouvrent au niveau du sol des orifices ronds où pourrait s'engager le pouce. Ce sont les trous de sortie des larves de cigales qui remontent des profondeurs pour venir se transformer à la surface. On en voit un peu partout, sauf dans les terrains remués par la culture. Leur emplacement habituel est aux expositions les plus chaudes et les plus arides, en particulier au bord des chemins. Puissamment outillée pour traverser au besoin le tuf et l'argile cuite, la larve sortant de terre affectionne les points les plus durs. Une allée du jardin convertie en petit Sénégal par la réverbération d'un mur exposé au midi abonde en trous de sortie. Dans les derniers jours de juin, je procède à l'examen de ces puits récemment abandonnés. Le sol est si compact qu'il me faut le pic pour l'attaquer. Les orifices sont ronds, avec un diamètre de 2,5 cm à peu près. Autour de ces orifices, absolument aucun déblai, aucune taupinée de terre refoulée au dehors. Le fait est constant. Jamais trou de cigale n'est surmonté d'un amas comme le sont les terriers des géotrupes, autres vaillants excavateurs. La marche du travail rend compte de cette différence. Le bousier progresse de l'extérieur à l'intérieur. Il commence ses fouilles par l'embouchure du puits, ce qui lui permet de remonter et d'amonceler à la surface des matériaux extraits. La larve de la cigale, au contraire, va de l'intérieur à l'extérieur. Elle ouvre en dernier lieu la porte de sortie, qui, libre seulement à la fin du travail, ne peut servir au débarras. Le premier entre et sur le seuil du logis dresse une taupinée. La seconde sort sans pouvoir rien accumuler sur un seuil qui n'existe pas encore. Le canal de la cigale descend à 4 décimètres environ. Il est cylindrique, un peu tortueux suivant les exigences du terrain, et toujours rapproché de la verticale, direction de moindre trajet. Il est parfaitement libre dans toute sa longueur. Vainement, on cherche les déblais que pareille excavation suppose. On n'en voit nulle part. Ce canal se termine en cul-de-sac, en loge un peu plus spacieuse à parois unies, sans le moindre vestige de communication avec une galerie quelconque, prolongement du puits. D'après sa longueur et son diamètre, l'excavation représente un volume d'environ 200 cm3. Qu'est devenue la terre enlevée? Forée dans un milieu très aride et très friable, le puits et la loge du fond devraient avoir des parois poudreuses, d'éboulement facile, si rien autre n'était intervenu que le travail de perforation. Ma surprise n'est pas petite de trouver, au contraire, des surfaces badigeonnées, crépies avec une bouillie de terre argileuse. Elles ne sont pas précisément lisses, il s'en faut de beaucoup. Mais enfin, leurs âpretés sont noyées sous une couche d'enduit. Leurs matériaux croulants, imprégnés d'agglutinatifs, sont maintenus en place. La larve peut aller et venir, remonter au voisinage de la surface, redescendre dans son refuge du fond, sans amener sous ses pattes griffues des éboulements qui encombreraient le tube, rendraient pénible l'ascension, impraticable la retraite. Le mineur étançonne avec des pieux et des traverses les parois de ses galeries. Le constructeur de voies ferrées souterraines maintient ses tunnels avec un revêtement de maçonnerie. Ingénieur non moins avisé, la larve de cigale cimente son canal, toujours libre malgré la durée du service. Si je surprends la bête au moment où elle émerge du sol pour gagner un rameau voisin et s'y transformer, je la vois aussitôt faire prudente retraite et redescendre sans le moindre embarras au fond de sa galerie, preuve que, même sur le point d'être abandonnée pour toujours, la demeure ne s'encombre pas de déblais. Le tube d'ascension n'est pas une œuvre improvisée à la hâte, dans l'impatience de venir au soleil. C'est un vrai manoir, une demeure où la larve doit faire long séjour. Ainsi le disent les murailles badigeonnées. Telle précaution serait inutile pour une simple issue abandonnée aussitôt que perforée. À n'en pas douter, il y a là une sorte d'observatoire météorologique où se prend connaissance du temps qu'il fait au dehors. Sous terre, à la profondeur d'une brassée et plus, la larve, mûre pour la sortie, ne peut guère juger si les conditions climatologiques sont bonnes. Son climat souterrain, trop lentement variable, ne saurait lui fournir les indications précises que réclame l'acte le plus important de la vie, la venue au soleil pour la métamorphose. Patiemment, des semaines, des mois peut-être, elle creuse, déblaye, raffermit une cheminée verticale en respectant à la surface, pour s'isoler du dehors, une couche d'un travers de doigts d'épaisseur. Au bas, elle se ménage un réduit, mieux soigné que le reste. C'est là son refuge, sa loge d'attente, où elle repose si les renseignements pris lui conseillent de différer l'émigration. Au moindre pressentiment des belles journées, elle grimpe là-haut, elle ausculte l'extérieur à travers le peu de terre formant le couvercle. Elle s'informe de la température et de l'hygrométrie de l'air. Si les choses ne vont pas à souhait, s'il y a menace d'une ondée, d'un coup de bise, événement de mortelle gravité quand se fait l'excoriation de la tendre cigale, la prudente redescend au fond du tube pour attendre encore. Si l'état atmosphérique est au contraire favorable, le plafond est abattu en quelques coups de griffe et la larve émerge du puits. Tout semble l'affirmer. La galerie de la cigale est une salle d'attente, un poste météorologique où la larve longtemps séjourne, tantôt se hissant au voisinage de la surface pour s'enquérir de la climatologie extérieure, tantôt gagnant les profondeurs pour mieux s'abriter. Ainsi s'explique l'opportunité d'un reposoir à la base et la nécessité d'un enduit fixateur sur des parois que de continuelles allées et venues ne manqueraient pas de faire crouler. Ce qui s'explique moins aisément, c'est la disparition complète des déblais correspondant à l'excavation. Que sont devenus les 200 centimètres cubes de terre fournis en moyenne par un puits? Il n'y a rien au dehors qui les représente, rien non plus au dedans. Et puis, de quelle façon, dans un sol aride comme cendre, est obtenue la bouillie dont les parois sont enduites? Les larves qui rongent le bois, celles du capricorne et des buprestes, par exemple, sembleraient devoir répondre à la première question. Elles progressent dans un tronc d'arbre, elles y creusent des galeries en mangeant la matière de la voie ouverte. Détachée parcelle à parcelle par les mandibules, cette matière est digérée. Elle traverse d'un bout à l'autre le corps du pionnier, cède en passant ses maigres principes nutritifs et s'accumule en arrière en obstruant à fond la voie où le ver ne doit plus repasser. Le travail d'extrême division, soit par les mandibules, soit par l'estomac, permet dans les matériaux digérés un tassement supérieur à celui du bois intact. Et de là résulte, en avant de la galerie, un vide, une loge où la larve travaille, loge très réduite en longueur, juste suffisante aux manœuvres de l'incarcéré. Ne serait-ce pas de façon analogue que la larve de la cigale fore son canal? Certes, les déblais d'excavation ne lui passent pas à travers le corps. La terre, fût-elle l'humus le plus souple, n'entre absolument pour rien dans sa nourriture. Mais enfin, les matériaux enlevés ne seraient-ils pas tout simplement rejetés en arrière à mesure que le travail progresse? La cigale reste 4 années en terre. Cette longue vie ne se passe pas, bien entendu, au fond du puits que nous venons de décrire, gîte de préparation pour la sortie. La larve y vient d'ailleurs d'assez loin sans doute. C'est une vagabonde, allant d'une racine à l'autre implanter son suçoir. Quand elle se déplace, soit pour fuir les hautes couches trop froides en hiver, soit pour s'installer en meilleure buvette, elle se fraye un chemin en rejetant en arrière les matériaux ébranlés par le croc de ses pics. Cette méthode est incontestable. Comme aux larves du capricorne et des buprestes, il suffit à la voyageuse d'avoir autour d'elle le peu d'espace libre que nécessitent ses mouvements. Des terres humides, molles, aisément compressibles, sont pour elle ce qu'est pour les autres la bouillie digérée. Cela se tasse sans difficulté, cela se condense et laisse place vacante. La difficulté est d'un autre ordre avec le puits de sortie dans un milieu très sec, éminemment rebelle à la compression tant que se maintiendra son aridité. Que la larve, commençant l'excavation de son couloir, et rejeté en arrière, dans une galerie antérieure maintenant disparue, une partie des matériaux fouillés, c'est assez probable, bien que rien dans l'état des choses ne l'affirme. Mais si l'on considère la capacité du puits et l'extrême difficulté de trouver place pour d'aussi volumineux des blés, le doute vous reprend et l'on se dit « Ah, à ces déblais, il fallait un spacieux vide, obtenu lui-même par le déplacement d'autres décombres non moins difficultueuses à loger. » La place à faire en suppose une autre où seront refoulées les terres extraites. On tourne ainsi dans un cercle vicieux. Le seul tassement de matières poudreuses rejetées en arrière ne suffisant pas à l'explication d'un vide aussi considérable. Pour se débarrasser des terres encombrantes, la cigale doit avoir une méthode spéciale. Essayons de lui dérober son secret. Examinons une larve au moment où elle émerge du sol. Elle est presque toujours plus ou moins souillée de boue, tantôt fraîche et tantôt desséchée. Les outils de fouille, les pattes antérieures, ont la pointe de leur pic noyée dans un globule de limon. Les autres portent gantelets boueux. Le dos est maculé d'argile. On dirait un égoutier qui vient de remuer la vase. Ces souillures sont d'autant plus frappantes que l'animal sort d'un terrain très sec. On s'attendait à le voir poudreux, on le trouve crotté. Encore un pas dans cette voie et le problème du puits est résolu. J'exhume une larve quand elle travaille à sa galerie de sortie. Le hasard des fouilles me vaut de loin en loin cette bonne fortune après laquelle il serait inutile de courir lorsque rien au dehors ne guide les recherches. L'heureuse trouvaille en est à ses débuts d'excavation. Un pouce de canal, libre de tout décombre, et au fond la chambre de repos. Voilà pour le moment tout l'ouvrage. En quel état est l'ouvrière? Voici. La larve est d'une coloration bien plus pâle que celle que je prends à leur sortie. Les yeux, si gros, sont en particulier blanchâtres, nébuleux, louches, non aptes à voir, apparemment. À quoi bon la vue sous terre? Ceux des larves issues du sol sont au contraire noirs, luisants, et dénotent l'aptitude à la vision. Apparue au soleil, la future cigale doit rechercher, parfois assez loin du trou de sortie, le rameau de suspension où se fera la métamorphose. Ivoire lui est alors d'utilité manifeste. Il suffit de cette maturité de la vue accomplie pendant les préparatifs de la délivrance pour nous montrer que la larve, loin d'improviser à la hâte son canal d'ascension, y travaille longtemps. En outre, la larve pâle et aveugle est plus volumineuse qu'à l'état mûr. Elle est gonflée de liquide et comme atteinte d'hydropisie. Saisie entre les doigts, elle laisse suinter à l'arrière une humeur limpide qui lui humecte tout le corps. Ce fluide, évacué par l'intestin, est-il un produit de la sécrétion urinaire? Est-il le simple résidu d'un estomac uniquement nourri de sève? Je ne déciderai pas, me bornant à l'appeler urine pour les commodités du langage. Eh bien, cette fontaine d'urine, voilà le mot de l'énigme. À mesure qu'elle avance et qu'elle fouille, la larve arrose les matériaux poudreux et les convertit en pâte, aussitôt appliquée contre les parois par la pression de l'abdomen. À l'aridité première succède la plasticité. La boue obtenue pénètre dans les interstices d'un sol grossier. La partie la mieux délayée s'infiltre avant. Le reste se comprime, se tasse, en occupant les intervalles vides. Ainsi s'obtient une galerie libre, sans déblaise aucun, parce que les décombres poudreux sont utilisés sur place en mortier plus compact, plus homogène que le terrain traversé. La larve travaille donc au sein d'une fange glaiseuse, et telle est la cause de ces souillures si étonnantes quand on la voit sortir d'un sol sec à l'excès. L'insecte parfait, quoique affranchi désormais de toute corvée de mineur, ne renonce pas en plein à l'outre urineuse. Des restes en sont conservés comme moyen de défense. Observé de trop près, il lance à l'importun un jet d'urine et brusquement s'envole. Sous ces deux formes, la cigale, malgré son tempérament sec, est un irrigateur émérite. Tout hydropique qu'elle est, la larve ne peut avoir assez de liquide pour humecter et convertir en boue aisément compressible la longue colonne de terre qui doit s'évider en canal. Le réservoir s'épuise et la provision doit se renouveler. Où et comment? Je crois l'entrevoir. Les quelques puits mis à découvert dans toute leur longueur avec les soins minutieux que pareille fouille exige, me montrent au fond, incrusté dans la paroi de la loge terminale, une racine vivante, parfois de la grosseur d'un crayon, parfois du calibre d'une paille. La partie visible de cette racine est de faible étendue, quelques millimètres à peine. Le reste s'engage dans la terre environnante. Est-ce recherche spéciale de la part de la larve? J'incline vers la seconde alternative, tant se répète la présence d'une radicelle, au moins lorsque ma fouille est bien conduite. Oui, la cigale creusant sa loge, amorce de la future cheminée, recherche le voisinage immédiat d'une petite racine fraîche. Elle en met à nu une certaine portion qui continue la paroi sans faire saillie. Ce point vivant de la muraille, voilà, je le pense, la fontaine où se renouvelle, à mesure qu'il en ait besoin, la provision de l'outre urineuse. Ce réservoir est-il tari par la conversion d'une aride poussière en boue? Le mineur descend dans sa loge, il implante son suçoir et, copieusement, s'abreuve à la tonne encastrée dans le mur. Le bidon bien garni, il remonte. Il reprend l'ouvrage, humectant le dur pour mieux l'abattre de la griffe, réduisant les décombres en boue pour les tasser autour de lui et obtenir passage libre. Ainsi doivent se passer les choses. En l'absence de l'observation directe, ici impraticable, la logique et les circonstances l'affirment. Si le baril de la racine fait défaut, si de plus le réservoir de l'intestin est épuisé, qu'adviendra-t-il? L'expérience suivante va nous le dire. Une larve est prise sortant du sol. Je la mets au fond d'une éprouvette et la couvre d'une colonne de terre aride médiocrement tassée. Cette colonne a 1,5 décimètre de hauteur. La larve vient d'abandonner une excavation 3 fois plus longue, dans un sol de même nature, mais de résistance bien supérieure. Maintenant ensevelie sous ma courte colonne poudreuse, sera-t-elle capable de remonter à la surface? Si la vigueur suffisait, l'issue serait certaine. Pour qui vient de trouver un terrain dur, que peut faire un obstacle sans consistance? Des doutes cependant me prennent. Pour abattre l'écran qui la séparait encore du dehors, la larve a dépensé ses dernières réserves en liquide. L'outre est à sec, et nul moyen de la remplir en l'absence d'une racine vivante. Mes soupçons de l'insuccès sont fondés. Pendant 3 jours, en effet, je vois l'ensevelie s'exténuer en effort sans parvenir à remonter d'un pouce. Les matériaux remués, impossibles à maintenir en place faute de liant, aussitôt écartés, s'éboulent et reviennent sous les pattes. Travail sans résultat sensible. Toujours à recommencer. Le 4e jour, la bête périt. Avec le bidon plein, le résultat est tout autre. Je soumets à la même épreuve une larve dont les travaux de libération commencent. Elle est toute gonflée d'humeur urineuse qui suinte et lui humecte le corps. Pour elle, la besogne est aisée. Les matériaux n'offrent presque pas de résistance. Un peu d'humidité, fournie par l'outre du mineur, les convertit en boue, les agglutine et les maintient à distance. Le canal s'ouvre, très irrégulier, il est vrai, et presque comblé en arrière à mesure que l'ascension progresse. On dirait que l'animal, reconnaissant l'impossibilité de renouveler sa provision de liquide, économise le peu qu'il possède et n'en dépense que le strict nécessaire pour sortir au plus vite d'un milieu étranger à ses habitudes. La parcimonie est si bien conduite que l'insecte gagne la surface au bout d'une 10 jours. La porte de sortie est franchie, abandonnée, toute béante, semblable au trou pratiqué par une grosse vrille. Quelque temps, la larve erre dans le voisinage, à la recherche d'un appui aérien, menue broussaille, touffe de thym, chaume de graminées, brindille d'arbustes. C'est trouvé. Elle y grimpe et s'y cramponne solidement, la tête en haut, avec les harpons des pattes antérieures qui se ferment et ne lâchent plus. Les autres pattes, si les dispositions du rameau le permettent, prennent part à la sustentation. Dans le cas contraire, les 2 crocs suffisent. Suit un moment de repos pour permettre au bras suspenseur de se raidir en appui inébranlable. Alors le thorax se fend sur le dos et par la fissure, l'insecte lentement émerge. En tout, le travail dure une demi-heure environ. Voilà l'insecte adulte hors de son masque, mais combien différent de ce qu'il sera tout à l'heure. Les ailes sont lourdes, humides, hyalines, avec les nervures d'un vert tendre. Le thorax est à peine nuagé de brun. Tout le reste du corps est d'un vert pâle, blanchâtre par places. Un bain prolongé d'air et de chaleur est nécessaire pour raffermir et colorer la frêle créature. 2 heures se passent environ sans amener de changements sensibles. Appendue à sa dépouille par les seules griffes d'avant, la cigale oscille au moindre souffle, toujours débile, toujours verte. Enfin, le rembrunissement se déclare, s'accentue et rapidement s'achève. Une demi-heure a suffi. Hissée au rameau de suspension à 9 heures du matin, la cigale s'envole sous mes yeux à 12h30. La défroque reste, intacte moins sa fissure, et si solidement accrochée que les intempéries de l'arrière-saison ne parviennent pas toujours à la faire choir. Pendant des mois encore, même pendant l'hiver, très fréquemment se rencontrent de vieilles dépouilles appendues aux broussailles dans l'exacte pose qu'avait prise la larve au moment de se transformer. Une nature coriace, rappelant le parchemin sec, en fait des reliques de longue durée.